Lorsque l'on parle de l'expérience client, on pense généralement au consommateur final, celui qui, ultimement, dira oui à une marque en ouvrant son portefeuille. Mais ce souci d'amener une plus-value allant bien au-delà de la simple transaction peut devenir une arme de distinction massive très efficace lorsqu'appliquée à la relation agence-client. Point de conversation avec les associés de l'agence, les évadés. Bon podcast.
On voulait travailler au fond dans une structure qui nous ressemble, une structure qui est, je pense, souple et agile, qui peut s'adapter aux défis que le secteur, évidemment, auxquels notre secteur fait face. Je pense que la capacité d'adaptation, la souplesse, pour nous autres, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est ce qu'on a tout le temps prôné. Donc, des seniors qui sont proches des clients, une structure agile qui s'adapte aussi, puis qui est capable de répondre pas juste aux besoins stratégiques créatifs des clients, mais aussi jouer un rôle adapté à leurs besoins. T'sais, dans certains cas, on a des clients qui ont des structures importantes, puis des équipes marketing plus importantes. Dans d'autres cas, on est carrément une extension de leur équipe. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a perpétué. En 2010, comme quand Claude est arrivé, son défi, c'était de nous aider à prendre un virage numérique. Puis je pense à l'époque, 95% de nos revenus provenaient du traditionnel. Puis, je pense dans l'espace de 2-3 ans, on s'est retrouvé avec je pense 75% de nos revenus qui provenaient soit du numérique ou du multiplateforme.
Auriez-vous un exemple concret de cette différence de type de service-là, genre les deux extrêmes, je ne sais pas, un service hyper pointu puis un autre qui est comme même au-delà de ce que vous faites généralement?
Oui, bien, dans l'extrême de où on est allé, ça serait, on a parti, on a démarré notre propre start-up avec un partenaire, donc une co-entreprise 50-50, où on a fait le choix d'investir dans un projet qui visait à brasser la cage ou à révolutionner un secteur extrêmement traditionnel qui est le secteur de l'entretien ménager à domicile. Donc, un secteur qui a pu évoluer et qui évolue encore peu. Donc, on a parti une co-entreprise qui est un, pour résumer, là, est de plus en plus connue à Montréal, mais c'est un genre de Uber d'entretien ménager. Donc, on peut demander, passer par une plateforme en ligne pour obtenir un prix en temps réel. Puis ensuite, s'entendre sur différents types de services allant d'un service à la pièce une fois de temps en temps sans aucun engagement jusqu'à des abonnements plus formels aux 2 semaines, au mois, aux 3 semaines. Donc, on a non seulement, on aurait pu juste se contenter de faire un exercice de branding pour une entreprise d'entretien ménager qui voulait rajeunir sa cible. On est allé complètement ailleurs. On a créé une plateforme. On a levé du financement. On a créé tout le brand, géré la technologie, la stratégie. Aujourd'hui, cette entreprise-là est présente à Montréal, Toronto, Ottawa.
Ça peut paraître peu accessible pour la majorité des annonceurs, mais en fait, ces trois pôles-là, puis un peu l'ADN des évadés, ça fonctionne et ça demeure pertinent pour des clients plus traditionnels, ce qui a fait en sorte que depuis plusieurs années, on s'est spécialisé aussi dans les campagnes de sensibilisation, campagnes de changement de comportement, campagnes sociétales et gouvernementales. Je pense notamment à des campagnes comme auprès du ministère des Finances, par exemple, où on a réussi à exprimer le volet Challenger parce que on a su rallier les intervenants au ministère pour développer la première campagne 100% numérique à l'époque.
Pour l'annonce d'un budget. Hein?
Ouais, pour l'annonce des budgets provinciaux. Puis même chose aussi au niveau de l'innovation ou même de l'expérience client. Tu sais, la notion d'expérience client, je pense qu'elle vit au quotidien dans notre business. Mais l'idée, puis tu sais, on est confronté souvent à ça en pitch. C'est qu'à Montréal, je veux dire, il y a beaucoup d'agences. Tout le monde a une grande expertise stratégique, une grande expertise de création. Donc à un moment donné, la différence, ça se fait sur notre façon de fonctionner avec les clients, sur les processus qu'on met en place.
Mais ça, tout le monde parle de ça, puis ça en vente, d'avoir la meilleure expérience client. Concrètement, en quoi vous croyez que vous vous distinguez, vous autres, de ce qui est offert dans les autres boîtes?
Bien, en fait, nous, on a pris une approche qui est plus complexe pour nous, qui est de ne pas imposer à aucun client notre façon de faire. Donc, je pense que contrairement à beaucoup d'agences qui disent « Nous, on a un processus qui est vraiment optimal, le voici, puis il faut que tu travailles à l'intérieur de ce cadre-là. Mm-hmm. » C'est pas ça qu'on fait. Nous, au début de chaque mandat gagné avec un client, il y a des séances où on travaille ensemble sur comment on veut travailler. C'est quoi leur niveau d'implication? Est-ce qu'ils veulent s'impliquer jusqu'à être présents au premier brainstorm de création ou être moins impliqués, plus en stratégie? On a aussi des outils, on utilise des outils en ligne qui font en sorte qu'on peut devenir une extension quasi physique, entre autres Slack, Trello, etc. Donc, pour nous, c'est un coffre à outils. Puis, dépendant de chaque client, la méthode change. Fait que ça peut sembler lourd au niveau administratif, mais on a trouvé une façon où j'irais à la limite de dire que nos processus avec presque chaque client ont des légères variances. Puis, qui est un modèle, je pense, qui ne serait pas possible puis pas envisageable dans les très grandes entreprises qui ont un besoin évident au niveau économie d'échelle de structurer un peu plus. Fait qu'on est allé à l'autre extrême. On est une adaptabilité extrême où chaque client a l'opportunité, s'il désire, de développer une façon de travailler propre à lui.
Je pense que c'est un bon exemple. C'est le feedback qu'on a eu, comme je pense que c'est en janvier cette année, qu'on a mérité le compte du niveau de Sleeman.
Mm-hmm.
Ça a été un processus quand même pas long en termes de temps, mais eux autres, ils ont choisi 15 agences où ils ont étudié les profils, ils ont rencontré 5 agences, ils ont shortlisté 2 agences, puis finalement, ils en ont choisi une, ça a été nous. Je me souviens qu'en finale, on était contre Publicis, puis une des choses qui m'a sorti, c'est sûr qu'on avait une bonne expertise dans ce vertical-là,
mm-hmm.
Mais c'était beaucoup au niveau aussi des processus, puis le consultant et le vice-président marketing nous ont dit, pouvez-vous croire que sur 15 agences, il n'y a personne qui nous a présenté des outils collaboratifs qui nous permettraient, nous autres, avec nos ressources limitées en marketing, d'être plus efficaces, d'avoir accès à des documents en ligne, pouvoir suivre des dossiers partagés.
Diriez-vous que ce souci de l'expérience client-là vient du fait de l'arrivée de Claude? J'entends par là que dans le web, c'est comme un naturel l'ensemble de ces outils-là. Dans le trad, probablement moins. C'est-tu à ce moment-là que vous avez commencé à vous soucier puis à creuser la façon d'être encore plus in tune avec le travail qui se faisait chez le client, votre travail puis cette espèce de zone commune entre les deux?
Je sais pas si c'est moi ou plus l'intégration d'une culture plus numérique. Parce
En
rentrant le numérique à l'agence, puis tu sais, là, normal, ça change tellement rapidement puis tout le temps, puis ça n'arrêtera pas de changer qu'une culture numérique te force à avoir un regard nouveau sur l'adaptation. Je pense qu'on est arrivé à un moment donné où la remise en question était plus sur comment on améliore le produit créatif puis comment on améliore le produit stratégique. On est arrivé à un point où là, on s'est mis à se dire, hey, souvent quand les relations, puis ça achoppe dans le cadre d'une relation client-agence, c'est rarement parce qu'on est à côté de la traque en stratégie ou en création, on s'est rendu compte que de plus en plus, le pain point, là, quand t'es centré comme client, c'était des systèmes liés à la difficulté de travailler avec une agence.
Je pense que l'arrivée de Claude a définitivement eu un impact. Je pense que c'est aussi le genre de personne avec le profil qu'il y a en stratégie d'affaires aussi, qui questionne beaucoup les façons de faire, les processus, puis qui est constamment en train d'investir. Donc, ça fait partie un peu de son background et de sa personnalité. Alors ça a eu un impact majeur. Effectivement, je pense qu'au niveau numérique, on ne peut pas mener des projets de la même façon. Fait qu'on a été chercher des outils qui s'apparentent un peu à des projets beaucoup plus technologiques. On les a adaptés ou on a choisi des outils finalement qui répondaient un peu à ce besoin-là du côté peut-être plus traditionnel de la business de communication. Un autre volet qui nous a beaucoup influencé dernièrement, c'est quand en 2016, on a lancé Adèle, on est devenu aussi nos propres clients. Ça a été un reality check. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait où on pense créer de la valeur, on accorde beaucoup d'importance à avoir une marque clairement définie, à investir beaucoup d'argent dans le positionnement, le développement des outils, des contenus, etc. Puis je ne dis pas que du jour au lendemain, on fait n'importe quoi à bas prix, mais là, ce deviens client, puis là, tu réalises au fond que quand j'ai un dollar à investir, je l'investis où? Je peux l'investir en communication, je peux l'investir en technologie, je peux l'injecter en ressources, puis ça nous a fait nous questionner en disant, OK, le prochain dollar, où doit-être, où est-ce qu'il crée le plus de valeur? Puis je pense que ça, on l'a transféré un peu aussi à notre façon de penser face au budget de communication, en disant, OK, là, eux autres, là, leur objectif, c'est ça, là, mais le prochain dollar, là, où est-ce qu'il est le plus payant? Oui, on aimerait ça faire une grande campagne qui fait pleurer le monde puis qui marque le Québec. Puis quand on a l'occasion, de, je pense, en termes de démontrer notre créativité à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Mais en bout de ligne, on est vraiment encore plus sensibilisé à être un partenaire qui crée vraiment de la valeur pour les clients. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut constamment nourrir. Je pense que ça nous a aussi réouvert les yeux. Tu sais, ça a été un bon reality check. Puis pendant 3 ans, on a été à la fois l'agence, on était le propriétaire, fait qu'on était aussi le client, là, tu sais, on s'est challengé là-dessus.
On se disait nous-mêmes qu'on n'avait pas d'argent, fait que là, l'autre côté du cerveau disait, on commençait que t'en as pas plus, fait qu'on vivait comme la dualité de la relation client-agence en même temps.
Et c'est pas drôle, ça?
Non, ça fait très créatif.
Charles, t'as parti la boîte avec ton pote, puis après ça, ça a changé un peu, puis t'as des nouveaux amis qui sont arrivés, que vous connaissiez en partie ou pas, whatever. Monsieur Webb est arrivé. Comment ça fonctionne quand on gère une boîte à 4 personnes avec des profils relativement différents? Déjà, avoir 4 évadés ensemble, ça peut faire en sorte que tu dis, hey, tabarouette, il y en a un qui va s'évader.
Sérieusement, je pense que le secret en affaires, puis je crois vraiment, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. Puis je pense qu'on autour de la table aujourd'hui, je suis tellement content des 4 partners. Puis je pense que la complémentarité de tout le monde ici est vraiment forte. Puis ça a amené l'agence complètement ailleurs aussi, puis ça l'a permis d'évoluer de façon juste positive.
Ouais, puis au niveau des 4 partners, quand tu regardes ça, je pense qu'en termes de complémentarité, quand il y a des problématiques, des enjeux ou autres, on a des visions très complémentaires pour voir puis proposer des solutions.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... 7 ans, la boîte était super créative. On a gagné des gros comptes juste avec la création. On a gagné Bro et Martineau, on a gagné Proprio Direct. On gagnait certains types de comptes de façon avec la création. Et je pense que ça, on est arrivé au constat aussi. Il manquait quelque chose pour accéder à d'autres types de comptes.
Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble, puis c'est devenu intuitif. À un moment donné, quand tu définis des nouveaux rôles, il y a des affaires qui peuvent passer entre deux chaises, tomber entre deux chaises. Ce que je trouve intéressant, c'est que sans même se parler, on sait exactement qui va prendre le pôle sur telle ou telle opportunité, puis on a développé, c'est comme un, pas un trio, mais un quatuor qui est à la glace. À un moment donné, tu sais où est-ce que ton joueur va être, tu sais qu'est-ce qu'il risque de faire, puis tu te retrouves à bonne place au bon moment. Puis ça, cette complicité-là, ben, je pense que ça... C'est juste aussi le temps qui nous amène à faire ça. Puis,
on a un énorme respect aussi envers l'autre, puis on a une extrême confiance envers ce que les autres sont capables. Je pense que c'est la clé aussi. Ouais.
Challenger est un de vos 3 pôles. Vous challengez-vous souvent?
Honnêtement, quand on regarde le secteur, là, ce qui se vit depuis le tournant du millénaire avec l'avènement du numérique, tout le monde empiète sur le territoire de tout le monde, des clients qui internalisent des services, etc. Je pense que le mot d'ordre, c'est aujourd'hui, c'est la disruption dans tout. Puis il faut que c'est quasiment ça ton modèle. Fait que nous autres, à chaque année, plusieurs fois par année, on s'arrête. On regarde où la business s'en va, puis oui, on essaie d'anticiper des moves, mais on essaie surtout de garder cette possibilité, cette flexibilité-là, de réinventer une partie de la business, des processus ou de la façon dont on fait les affaires. Puis ça, je pense que c'est la raison pour laquelle l'entreprise de taille moyenne dans un secteur, dans un créneau comme Montréal, est encore en business après 17 ans. Puis en termes d'avenir, où est-ce qu'on s'en va, etc., moi, je pense que on n'a pas le choix comme agence qui ne fait pas partie d'un réseau de travailler avec des partenaires. Donc, on a travaillé un partenariat avec une agence de Toronto qui s'appelle NFA No Fixed Address. L'autre chose d'affaires, parce qu'on est en affaires, donc c'est sûr qu'on est préoccupé par la rentabilité de l'agence, mais en même temps, je pense que Claude a été un artisan là-dedans, c'est-à-dire si on est capable de grandir avec des clients, après ça de remonter la filière qui pourrait nous amener hors Québec, ça je pense que ça serait quelque chose d'intéressant.
Mm-hmm.
Au fond, Univo, puis une des raisons pour laquelle on a décidé sur invitation d'y aller, c'est parce qu'il y avait une filière, on trouvait intéressant qu'on ait une marque qui soit aussi en Ontario, puis dans les États du Nord-Est américain, une marque qui nous amène possiblement dans le giron de Sleeman, donc qui puisse nous permettre de faire valoir notre expertise ailleurs, dans des marchés où même les marges peuvent peut-être être plus importantes.
Mm-hmm.
Ça a été la même chose au fond avec Permacon. On a été invité, on a pitché Permacon, puis on a Québec, Ontario, Maritime, mais Permacon, on a aussi pitché devant les gens de Oldcastle, qui sont des propriétaires, qui sont à Toronto, dans l'Ouest canadien, qui ont une filiale américaine, puis on fait nos premiers pas en faisant bien le travail ici. Mais ce qu'on a fait comme thinking stratégique, comme création, comme travail, puis même ce qu'on développe comme outil, ont un raisonnement ailleurs. Puis ça, on regarde ça aussi, puis je pense à la même chose avec l'antique. Donc, tu sais, on essaie de choisir ces marques-là, qui sont peut-être pas des marques qui résonnent par la créativité de tout le travail qu'on fait, mais qui nous amènent à développer des relations d'affaires qui vont nous amener dans d'autres marchés.
Puis même, tu sais, créativement, je pense qu'on a aussi une force à... Il n'y a pas de client plate, là. Je pense qu'il y a toujours une place pour la création. Puis on est arrivé avec des clients super corporeaux, des clients super sociétales, à faire des campagnes tripantes.
Ouais. Cette valeur-là, je pense qu'elle nous distingue aussi comme employeur, parce que c'est un autre concern. Je pense que la marque employeur, dans le sens où il y a une forte concurrence pour les clients, mais aussi pour les talents. Puis la force d'une agence, c'est d'être capable d'attirer justement les talents. Donc, ça, on accorde une grande importance à ce niveau-là. Puis, je pense que tous les gens qui composent l'agence aujourd'hui, ben, ce sont des évadés. Ils ont adopté, ils ont choisi un travail, mais ils ont adopté la philosophie. Puis, je pense qu'on est très chanceux dans notre milieu où il y a un fort roulement, tu sais, du personnel, où c'est rare que les employés restent plus de 2 ans. Ben, ici, la semaine passée, on a célébré le 10 ans de Gin, infographie à l'agence depuis 10 ans. Je pense que ça, ça se transpose au sein de l'agence puis de nos employés.
Là. Fait que pas question pour vous de vous évader à court terme?
Je pense que non. Pas pour moi.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!